Bienvenue dans Le secret de la force surhumaine, ma version. Un podcast dans lequel je vous parle de ma prépa marathon d'Amsterdam, le premier marathon de ma vie. Depuis le début de ce podcast autour du marathon, je vous ai parlé de bande dessinée avec Le secret de la force surhumaine d'Alison Bechdel. Je vous ai parlé de littérature autour du sport avec Magali Conegero et les sélections du prix Sport Scriptum, ainsi que de poésie avec Cécile Coulon. Je vous ai parlé aussi de musique pour courir. Alors je vous propose aujourd'hui de parler de cinéma et des films sur la course à pied. Est-ce qu'il existe des films intéressants sur la course à pied? Je me souviens quand j'étais enfant d'avoir vu au cinéma Un enfant de Calabre. C'était un film italien sur un petit garçon pauvre avec un papa très sévère et un peu brutal. Un film très caricature de film italien et tout à fait dispensable. Mais un film d'une efficacité redoutable sur les enfants de 10 ans. En sortant de la salle de cinéma, on avait tous envie de courir. Nos jambes ne tenaient plus en place. Dans le premier épisode de ce podcast, Antoine m'avait parlé des chariots de feu. Ce film a eu probablement le même effet sur lui. Identification réussie, un gros shoot de motivation et une irrésistible envie de courir, courir, courir. Alors manifestement, il existe des films magiques qui donnent envie de courir. Quels sont-ils et comment ça fonctionne? C'est la première question que j'ai envie de poser à mon invité du jour, qui est critique cinéma, bien connu des spécialistes, le docteur Deveau. Bien connu aussi des cinéphiles lillois, puisqu'il est l'organisateur, programmateur, présentateur des soirées ciné-débat bon chic, mauvais genre, sur le cinéma de genre, qui ont lieu au cinéma Le Majestic depuis 18 ans. C'est dire le succès. Bravo docteur. Mais comme je le connaissais avant qu'il ne devienne le docteur Deveau depuis encore plus longtemps, je me permettrai de t'appeler Yann. Ça va Yann?
Ça va très bien, merci.
Alors, est-ce qu'il y a des films qui donnent envie de courir?
Eh ben, des films sur la course, il n'y en a pas tellement que ça en fait. Des documentaires, il y en a pas mal. Et j'ai fait comme ton premier interlocuteur, c'est Adrien.
Antoine.
J'ai regardé Les Chariots de Feu également, quoi, qui est le film de course et qui est un film dont qui a encore gardé son aura culte maintenant, quoi. Et j'étais très très étonné de voir comment Les Chariots de Feu était un film complètement atypique et qui ressemble pas du tout aux autres films sur le sport. Qui se passe dans le milieu du sport, quoi. Et c'est un film aussi qui est très atypique parce qu'il a un petit côté suranné, c'est-à-dire ça se passe dans un Royaume-Uni du début du siècle où tout se passe bien, où il y a des très jolis décors, etc. Et on n'a pas forcément le schéma qu'on voit par exemple dans les Rocky ou des trucs comme ça. On s'entraîne, on doute, on échoue, on se remet à l'entraînement et puis finalement on gagne le match ou on gagne la course, etc. Là, c'est beaucoup plus diffus et une des choses qui m'a très 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 étonné dans les chariots de feu, c'est que c'est un film qui parle énormément de religion et autant de religion que de sport. Et pour ceux qui l'ont pas vu, c'est des jeunes coureurs anglais qui vont aller aux Jeux Olympiques de Paris. Je crois que ça se passe en 1920. Et à un moment, il y en a un qui apprend au moment de prendre le bateau pour aller sur Paris que il va devoir faire une course de qualification et qu'elle va avoir lieu le dimanche suivant. Et en fait, on voit que le personnage est chiffonné, quoi. Et on dit, il est vexé parce qu'il y a une course de qualification, et lui, il voulait être qualifié tout de suite, parce que c'est un bon coureur. En fait, c'est pas ça. L'enjeu de toute la séquence qui va suivre, et qui est très longue, hein, qui fait peut-être 20 minutes, une demi-heure, c'est « je ne peux pas courir, parce que le dimanche, c'est le jour du Seigneur, et c'est quelqu'un de très très croyant, en fait. » Donc c'est un film très très bizarre, Les Chariots de Feu. Et au-delà de la musique de Vangelis, qui est ultra connu et qui fait partie peut-être de playlists de certains coureurs, c'est un film qui est pas du tout représentatif, en tout cas à mes yeux, de ce que peut du traitement du sport dans le cinéma, quoi.
Ouais, ça c'est je pense que c'est la musique de Vangelis qui est tellement exaltante aussi,
qui
est restée dans les mémoires, quoi.
Ouais.
Moi, dans mon film préféré sur la course à pied, pareil, finalement, le running n'est pas le sujet principal de ce film, puisque c'est Forrest Gump. Et le moment où le héros, donc, qui s'appelle Forrest Gump, se met à courir, c'est une toute petite péripétie qui est tout à fait accessoire dans l'histoire édifiante de ce personnage. Mais ce moment est fondamental, parce qu'il court. Il ne dit pas pourquoi il court, mais chacun peut y voir le message qu'il projette lui-même. Alors les gens se mettent à courir à ses côtés. Ça devient un mouvement collectif dans l'Amérique du mouvement hippie. On y met des revendications politiques ou spirituelles. Puis un jour, il arrête et il passe à autre chose.
Oui, c'est très, très, ça aussi, c'est très atypique. C'est-à-dire que Forrest Gump court, mais il court gratos, entre guillemets. Il court gratuitement, il n'y a pas de... Et c'est pour ça que les gens investissent sa course, c'est un message possible ou non, comme si c'était quelque chose de religieux, en fait. Ça me faisait penser aussi à dans la vie de Brian des Monty Python, le personnage principal qui est pris pour Jésus, mais qui est pris pour un messie, alors que c'est un type normal. À un moment, il perd sa sandale dans la rue, et tous les gens qui croient qu'il est le nouveau messie vont investir la sandale d'un message spécial, alors que la sandale est juste tombée. Forrest Gump, c'est pareil. Il court, mais il n'explique pas. Il court gratuitement, en fait. Et c'est très, très atypique dans le sport au cinéma, parce que dans le sport au cinéma, par contre, on court parce qu'on a une raison, quoi. C'est-à-dire que on a une revanche sociale à prendre, comme dans les Rocky, par exemple. On a une revanche sur l'enfance à prendre, par exemple dans The First Slam Dunk, qui raconte un match de basketball en fait au Japon, qui est un film d'animation. C'est le ressort principal. C'est on fait des flashbacks tout le temps pour expliquer pourquoi les gens font du basket, et il y a une revanche sociale à prendre, il y a une revanche sur la vie, il y a un père qui était absent, etc. On ne fait jamais les choses gratuitement dans les films de sport, sauf Forrest Gump.
Ah oui, ok. Mais c'est surtout dans Forrest Gump, il y a le fameux « cours, Forrest », qui est crié par sa copine pour lui dire de fuir en courant le plus vite possible.
Cours, Forrest, cours vite!
Et je sais que c'est devenu un mantra pour certains coureurs. D'ailleurs, c'est un conseil que m'avait donné ma copine Anne-Sophie, avec qui je cours régulièrement. Un jour, on préparait une course ensemble, et elle m'a dit qu'elle avait lu ça quelque part, je ne sais pas, dans Elle ou Murakami, qu'il fallait un mantra. Donc, elle cherchait, elle, un mantra, une phrase à se répéter dans sa tête, dans les moments difficiles. Une phrase un peu intelligente d'un philosophe, un truc très inspiré. Et moi, je ne le sentais pas trop d'être obligée d'apprendre par cœur une phrase compliquée. Alors, je suis partie sur un truc très court et vraiment très, très facile à retenir. C'est la phrase de Dory dans Nemo. Donc, Dory, c'est ce petit poisson bleu qui a la voix de Julia Roberts et qui n'a pas du tout de mémoire. Et elle chante « Nage droit devant toi, nage droit devant toi ». Et donc, moi, j'ai adapté. C'est mon mantra, c'est « cours droit devant toi ». Bon, je ne suis pas sûre, honnêtement, qu'un mantra pareil, ça soit particulièrement efficace face au mur du marathon.
Alors là,
mais peut-être tu as d'autres films à me recommander pour une prépa marathon.
Eh ben, des films vraiment. Alors à moins qu'on soit très sensible à ce que tu disais de l'enfant de Calabre tout à l'heure, c'est-à-dire que je sors de la salle et j'ai envie de. Je rentre chez moi en courant.
Non, je pense que ça, j'ai passé l'âge.
Ouais, ben moi aussi. Enfin, parce que moi c'était plutôt Rocky, par exemple. Et c'est vrai que il y a un effet Rocky après aussi hein, on fait semblant de boxer, etc. Mais des films motivants, pour moi c'est compliqué parce que le schéma principal aussi des films de sport, c'est des films de vainqueurs, en fait.
Et oui.
C'est des films où la dimension gratuite à 50 ans de se remettre à courir, par exemple, ou d'aller faire un marathon, alors que c'est peut-être pas plus l'âge. Alors, est-ce qu'on commence un marathon à 50 ans? Bah oui, on commence un marathon à 50 ans, mais c'est un geste aussi qui est généreux, personnel, gratuit. Et je trouve que c'est dur de s'identifier aux sportifs dans les films, en fait, parce que eux, ils sont dans la compète complète, en fait. Et je trouve ça vraiment bizarre. Et le deuxième truc que j'ai remarqué en préparant cet entretien, là, c'est aussi que les films de sport ne parlaient que très peu de sport, en fait. C'est, dans Rocky, c'est l'environnement social, le début d'Histoire d'amour. Dans The First Slam Dunk, dont je parlais tout à l'heure, le film d'animation japonais, c'est la revanche sur l'enfance, la revanche sur la situation familiale. Mais on parle toujours du sport par les à côté, en fait. Et à moins d'être effectivement très un petit peu naïf ou très jeune, je pense que la motivation dans le sport, elle est... dans les films de sport, elle est montrée de manière très très naïve, en fait.
Ouais, très très naïve. Ouais. Et puis, ouais. Du coup, ce que j'entends, c'est qu'il n'y a jamais eu un film sur ce que je suis en train de faire.
Non, non, non. Mais non, parce que c'est pas des particuliers ou alors des gens qui, dont même quand les gens sont très sportifs, leur hobby c'est le sport, etc. Ça, on le voit jamais dans les films. Dans les films, il faut qu'il y ait une compète. Et s'il n'y a pas compétition, si on le fait pour le plaisir ou pour l'épanouissement personnel, en fait, c'est, y a pas, aux yeux de l'industrie, en tout cas, il n'y a pas assez pour faire un film. Quoi.
Mais alors, et puis il y a aussi le fait qu'un marathon, c'est long, c'est oui. Beaucoup plus long qu'un match de boxe. Et une préparation marathon, c'est le temps long aussi. Alors peut-être qu'une série serait plus adaptée.
Alors les séries de sport, il y en a pas mal. Il y en a une que j'ai essayé de voir, mais que je n'ai pas réussi à voir, c'est Friday Night Lights, qui raconte la vie chaque semaine avant le match d'une équipe de football américain, mais pas universitaire, au lycée. Voilà. Et qui paraît-il une série aussi, en plus assez bienveillante. Mais moi, j'ai vu deux séries principalement. J'ai vu une série qui s'appelle Kenny Powers. Alors que c'est un petit peu trash, alors on sort un petit peu des sentiers battus des séries ou des films sur le sport, où on suit la trace donc de Kenny Powers, qui est un ancien joueur de baseball, qui a été une espèce de joueur un peu atypique dans les années 90, et qui a un peu bousculé le game du baseball, enfin, dans sa façon de lancer, etc. Et en fait, on le retrouve en 2010-2020, alors que sa carrière est derrière lui, qu'il a eu une vie complètement décousue, faite d'alcool, de drogue, de tromperie, etc. Et qu'il est redevenu une espèce de plouc, et il n'arrive plus du tout à se réinsérer. C'est une série qui est très très drôle, il faut s'accrocher, parce que c'est un petit peu... même si on rigole beaucoup, les bases de l'histoire sont assez, comment dire, un petit peu trash, voilà. Et c'est un personnage qui est malade, c'est-à-dire que, enfin malade entre guillemets, c'est-à-dire que mentalement, psychologiquement, il a beaucoup de ménage à faire autour de lui. Il est très loin de pouvoir le faire encore, quoi. Donc il y a aussi un aspect un peu, ça parle par le rebond de santé mentale aussi, ce qui est un sujet qui n'est pas franchement abordé dans les films de sport, malheureusement. Et la deuxième série, ce serait un peu le pendant positif de Kenny Powers, même si une fois Kenny Powers, c'est très très drôle, donc on passe quand même un très bon moment, mais si vous voulez voir quelque chose de très atypique, parce que c'est une série très bienveillante, c'est Ted Lasso, qui est une série anglo-américaine, en fait. C'est un coach de football américain qui est appelé à Londres pour entraîner une équipe de foot et, en première ligue. Hein. Et donc, il arrive. Donc, il va entraîner cette équipe de soccer, de football européen, alors qu'il ne connaît pas du tout le sport. Il ne sait pas ce que c'est qu'un hors-jeu. Il ne comprend pas les remises en jeu avec les touches. Il comprend rien. Et c'est un personnage qui est extrêmement bienveillant. C'est-à-dire, c'est un type rigolo, qui est, alors il est très très exubérant, c'est toujours un peu Monsieur 100 000 volts, des petites blagues à fond, etc. Mais au fond, c'est quelqu'un de énormément sympathique. Et au début de la série, on ne sait pas trop ses motivations, etc. Mais on devine qu'il est là pour faire son métier en dehors un petit peu des résultats aussi. Et c'est très, très étonnant, cette série, parce que même quand on a une... Moi, je ne suis pas spécialement fan de foot, et ce n'est pas un univers qui me plaît. Si on m'aurait dit avant, on va regarder une petite série avec des joueurs de foot, de jeunes joueurs de foot professionnels, et leurs petits états d'âme, machin, je dis, bah, c'est bon, on va passer. Et là, par contre, ça passe très, très bien, parce qu'il y a une espèce de bonne humeur. Alors, il y a beaucoup d'à côté aussi, parce qu'on découvre la vie des joueurs, etc., et on voit qu'il y a des petits problèmes. Là aussi, on va parler un petit peu de bien-être mental, peut-être pas de santé mentale, mais de bien-être mental. Et on a, dans cette série aussi, une déconnexion, c'est-à-dire que qui gagne ou qui perd, ça n'a pas vraiment d'importance, en fait. Enfin, ça en aura à certains moments, mais c'est pas le but principal de la série, voilà. Et donc ça, c'est très, très agréable, même quand on piche que dalle, parce qu'on voit le fonctionnement du club de foot aussi, donc il y a un petit côté documentaire, c'est peut-être un peu exagéré, mais on apprend des choses quand, comme moi, on n'y connaît rien, quoi, et... C'est une série vraiment très, 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 très agréable.
Et il n'y a jamais eu de film ou de série sur des sportives ?
Eh bien, à ma connaissance, il n'y en a pas. Des séries, je ne crois pas. Et je suis en train de regarder dans ma tête. Là, je ne suis même pas sûr qu'il y ait beaucoup de films avec des sportives, hein, effectivement.
C'est toujours. Million Dollar Baby ?
Ah, ouais.
Mais bon, là,
est-ce que c'est encore un film sur le sport ?
Non, c'est sur la relation aussi.
Ouais.
Par contre, ce qui m'étonne, c'est que personne n'a jamais eu envie de faire un biopic sur Catherine Switzer.
Ah, bah oui.
La première femme à avoir couru un marathon à Boston en 1967.
Tu me contrediras si jamais je me plante, mais l'approche globale du sport. Au cinéma, peut-être parce que justement on parle beaucoup de compétition, c'est très viriliste.
Ben oui.
On en avait parlé quand on s'était vu pour préparer l'entretien. C'était par exemple, on voit jamais les gens. Il y a le fameux montage à la Rocky, là, on met la musique de Bill Conti, il s'entraîne au début, c'est dur. Après, on le voit se réveiller le matin, manger des œufs crus, et puis il se rentraîne, c'est un petit peu mieux. Et puis on le voit frapper dans des sacs, et au fur et à mesure que la musique de Bill Conti avance, il frappe de plus en plus fort. Puis à la fin, il court avec tout le monde, il arrive en haut des escaliers, il y a les bras, et puis il est en forme, il est prêt pour y aller, quoi. Et c'est. On est resté là dans l'image du sport au cinéma. Il n'y a jamais, je sais pas, je suppose que moi je suis pas très sportif, mais je pense que toi tu connais très très bien la situation. C'est une semaine tu sors et au bout de 5 minutes tu as super mal à la cheville et au bout de 20 minutes ton corps ne suit pas et puis en fait tu n'es pas très motivé pour y aller et tu te fais si c'est comme ça je rentre chez moi. On voit jamais l'échec en fait, c'est ça que je veux dire. Et je rentre chez moi et là je mange des petits oursons chamallows, tu sais, avec du chocolat dessus, et je me goinfre, machin. Le geste, on voit jamais les choses qui échouent, en fait, dans les films de sport. Si ça échoue, ça veut dire que derrière, il va y avoir une réussite qui sera encore plus grande. Mais on voit jamais l'entraînement au quotidien. Et c'est pour ça que le marathon, par exemple, ce serait très, très dur de faire un film dessus, parce que l'entraînement est très... ça prend plusieurs semaines, enfin, je sais pas, 10, 15, 20 semaines. Il y a l'évolution de l'entraînement, les exercices qui changent, le type de sortie qui change. Ça, c'est très, très dur. Dans une dramatisation à la Rocky, c'est pas possible, quoi.
Pas du tout. Surtout que dans Rocky, il y a un duel.
Donc, oui.
En marathon, non seulement il n'y a pas de duel, mais il n'y a même pas de concurrence des coureurs les uns avec les autres. À part peut-être, oui, les 10 premiers qui veulent arriver en tête et gagner la course. Mais sinon, l'immense majorité des milliers de coureurs qui seront autour de moi au départ du marathon d'Amsterdam, on ne court pas contre les autres, on court ensemble. Et chacun vit sa course à sa manière. Donc finalement, pour moi, il y a quelque chose de très solidaire, de très collectif. Il y a du commun, paradoxalement, alors que chacun se doit préparer individuellement son corps.
Mais ce paradoxe de l'entraînement solitaire et la course collective aussi. Même dans le cadre que de la course, même si on parle sans parler de l'entraînement, ça pourrait être sympa à traiter de manière narrative aussi. C'est-à-dire de ce que j'imagine, peut-être que je fantasme sur les gens qui font de la course et du marathon, mais il y a le combat, il y a la lutte avec soi-même et le dépassement de soi-même dans quelque chose de très auto-centré, et en même temps le fait qu'on court tous ensemble, etc. Là, il y aurait vraiment quelque chose à faire sur le la dualité ou la complémentarité entre le collectif et le et le et le côté solo de la course, quoi.
Bah ouais, je suis d'accord. Il y aurait quelque chose à faire. Et puis il y aurait quelque chose à faire pour que la femme de 50 ans existe davantage au cinéma aussi.
Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'échec au cinéma. Il n'y a pas d'échec dans les films de sport.
Tu veux dire que moi je vais échouer ?
Non, pas du tout, mais j'ai, qu'on voit un film de sport, c'est, on a envie de voir des, enfin on a envie entre guillemets, enfin, on a envie de voir des corps jeunes, et puis des gens qui sont préparés pour ça. Ça change. Il y a le titre du film va m'échapper, mais la comédie française, ce que j'ai pas vu, hein, c'est sur les vieux gars qui font de la natation là.
Ah, le grand bain.
Le grand bain, par exemple.
Mais non, oui. Oui.
Donc là, on a des corps un petit peu différents. Je ne sais pas si le film est à la hauteur, mais autrement, c'est vrai que c'est.
Bah oui, c'est chouette, le grand bain. Ah bah c'est très motivant, ça. Voilà un film, un film qui est bon pour ma prépa marathon. On va regarder le grand bain.
Bah voilà, ouais.
Plutôt que de courir vers l'échec.
C'est ça, non. Mais...
Et puis j'espère que l'imaginaire. L'imaginaire cinématographique autour du sport va devenir moins viriliste et qu'il y a d'autres imaginaires autour du sport qui peuvent avoir un.
Encore une fois, j'ai pas vu Friday Night Lights, la série sur le football américain, qui apparemment est très très bienveillante aussi, mais en tout cas dans Ted Lasso, sur ce fameux coach américain qui débarque à Londres, il y a un aspect de bienveillance aussi, et il y a aussi un aspect alors léger, un petit peu hollywoodien et compagnie, mais il y a aussi un petit effort de dévirilisation entre guillemets à travers le portrait des joueurs qui dont on découvre certaines failles que je vais pas dévoiler ici, mais enfin voilà, donc le footballeur c'est plus l'espèce de grand gars viril agressif, les choses sont plus nuancées. Je vais pas dire que ils apprennent à découvrir leur côté féminin ou leur côté un peu doux, etc. Mais ce qui sera un gros cliché aussi, mais Ted Lasso en trouve la porte sur cette question-là.
Voilà. Eh ben, du coup, maintenant que la porte est entrouverte, je te remercie beaucoup,
merci
Yann.
Merci à toi.
Et je vais pas aller au cinéma tout de suite. Je vais d'abord aller courir.
Voilà.